Donc nous continuons dans le livre de Petit Épître de Tite. On est dans le deuxième chapitre et nous allons lire versets 6 à 10 aujourd'hui. Tite chapitre 2, versets 6 à 10. Tite chapitre 2, à partir de verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Voilà le texte que nous allons aborder aujourd'hui. Je l'ai appelé les jeunes, les ouvriers. Il ne faut pas dire les jeunes et les ouvriers, mais c'est ça. On va parler d'une main à propos des jeunes et de l'autre main à propos des ouvriers. Je voudrais commencer en parlant un petit peu d'arrière-plan pour la pensée dans ces versets. Quand on parle du christianisme et on regarde, donc il y a dans une église, il y a des familles, et des personnes célibataires, etc. Je veux dire que les chrétiens âgés représentent la stabilité d'une église. Les personnes âgées étaient peut-être là depuis des années, des longtemps, ok, de longue date. Les chrétiens plus jeunes, que ce soit les nouveaux convertis ou les jeunes physiquement, qui sont des jeunes, eh bien, ces personnes-là représentent la future de l'Église. Une Église sans jeunesse n'a pas d'avenir. Cette Église va mourir. Une Église dominée par la volonté de la jeunesse est vouée à dévier de la vérité et de se transformer dans un christianisme qui se conforme plutôt au monde actuel de leur époque, que à la Bible. Ça, c'est ce qui s'est passé tout à travers les siècles. Aujourd'hui, la majorité des églises sont devenues mondaines. On ne le voit pas en soi, on le voit de l'extérieur peut-être, mais on a pris des habitudes qui sont du monde. À travers les 6 décennies de ma vie, notamment à travers l'introduction de la musique du monde, dans les églises par les jeunes et aussi par les adultes qui voulaient bien plaire aux jeunes, le monde évangélique s'est transformé ces dernières 60 ans vers une église mondaine, c'est-à-dire ressemblant au monde. Certes, les jeunes d'autrefois sont aujourd'hui les adultes, sont des personnes âgées, hein, les anciennes. Et les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent même pas le christianisme d'autrefois. Aujourd'hui, on dit qu'une église ne peut jamais réussir sans le rock. Rock and roll, la musique moderne. Ceci est faux. Le seul rock nécessaire pour la réussite d'une église est Jésus-Christ, qui est lui-même le rock, qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Paul a confié à Tite le travail très important de solidifier la foi et la pratique sur l'île de Crète pour assurer un christianisme fidèle à l'avenir. On vise l'avenir. Et c'est le même que mon travail. Ici, parmi nous, je dois préparer une église qui va durer dans l'avenir. Donc, regardez dans le verset. Chapitre 2, verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Alors, dans le grec, il y a une autre phrase qui vient tout de suite après, et c'est cette phrase à tout égard. Donc, je vais vous rappeler que les chiffres qui divisent les versets n'étaient pas dans le grec d'origine. Les chiffres étaient placés par Erasme dans le 16e siècle. Et des fois, il s'est trompé. Ici, ce n'est pas obligatoire qu'il s'est trompé, mais il a dû faire un choix. Est-ce que la phrase « à tout égard » va avec les jeunes être modérés ou est avec Tite qui devait être un bon exemple à tout égard? Parce que c'est entre les deux phrases, donc concernant les jeunes et concernant Tite, il y a la phrase à tout égard, ok, dans le grec. Donc il a mis le 7 là au lieu de mettre le 7 là, ce qu'il aurait dû faire. Ok, donc dans les traductions modernes, c'est presque toujours on met à tout égard avec les jeunes gens doivent être modérés à tout égard. Modérés à tout égard. Bon, je ne critique pas, hein? Erasme a fait un grand travail. Hein? C'est simplement que des fois, c'est un truc, une partie de l'histoire, même des fois, il faisait ça dans les carrosses et puis il a voulu mettre le chiffre et ça tombait dans le mauvais endroit. C'est comme ça. Alors, ce mot modéré ou modération, c'est le mot sophon. Et ce mot a déjà été invoqué deux fois. Ce mot était invoqué pour les anciens et pour les femmes. Et maintenant, pour les jeunes. On a aussi le mot qui commence la phrase, exhorte de même les jeunes gens. Donc le mot exhorte, exhorter, ceci est le verbe, on a déjà parlé de ça, c'est le verbe d'où vient le nom paraclète. En parlant du Saint-Esprit, c'est le mot pour exhorter, pour consoler, pour être un avocat qui plaide pour notre personne. C'est le mot pour dire encourager, ça veut dire inviter. C'est très large la signification de ce mot, parce que quand quelqu'un vient à côté pour vous aider, il y a plein de choses qu'il peut faire. C'est le mot prier, dans le sens « je vous prie de m'excuser ». Okay? Ça peut être tous ces mots-là. Donc, il dit « exhorte les jeunes gens ». On voit qu'il n'a pas dit « menacer les jeunes gens »,« forcer les jeunes gens ». Il dit « exhorte » dans le sens de l'âge que je vous ai donné. Il veut que Tite encourage, qu'il console, qu'il plaidoie avec les jeunes gens pour que les jeunes gens vivent une vie chrétienne. C'est ça l'idée ici. Le christianisme, je veux dire le christianisme biblique quand je parle, le christianisme biblique est toujours en train de construire ses membres. On ne peut pas imposer la modération. Il faut que la modération vienne du cœur. On ne peut pas l'imposer, on ne peut pas la forcer. Donc, je vous rappelle aussi de cette petite phrase « de même ». Ok, verset 6, « exhorte de même les jeunes gens à être modérés à tout égard ». Donc, « de même », ça veut dire que les versets auparavant, on a déjà parlé des anciennes, on a déjà parlé des femmes âgées, des plus jeunes femmes, mais tout ce qu'il a déjà parlé applique aux jeunes gens. Les versets s'appliquent « de même aux jeunes ». Les jeunes hommes doivent être autant chrétiens que les hommes matures, que les anciens. Et les jeunes filles devraient être autant chrétiennes que les hommes, les garçons et les femmes. On n'a pas de christianisme catégorisé par sexe et par âge. Chrétiens et chrétiens, de même, pour tous. Pourtant, il dit ici, exhorte de même les jeunes gens à être modérés en tout. À tout égard.
C'est quoi la différence?
Puisqu'il a déjà dit deux fois. Alors, il faut voir que ici, premièrement, ce que nous ne voulons pas dire, c'est le juste milieu. Vous savez, dans le vocabulaire souvent, à être modéré, il faut trouver le juste milieu qui est un peu bouddhiste, tout ça. Hein? On ne parle pas du tout de cette idée-là. Le chrétien doit être sain de pensée, maître de ses pensées, de ses émotions et de sa personne. On a déjà parlé de ça dans un autre message. C'est l'idée de la maîtrise de soi qui fait partie des fruits du Saint-Esprit. Nos pensées et nos actions doivent être modérées selon le caractère de Dieu. Dieu est saint. Il est juste. Il est amour. Dieu est entier dans toutes ces choses. Ainsi, Dieu agit avec retenue et équilibre. Nous, par contre, nous sommes tordus. Ça, c'est notre nature pécheresse. Nous n'arrivons pas à modérer un caractère, un trait de caractère de Dieu, par les autres traits de caractère de Dieu. Nous avons du zèle. Hein? On est zélé pour la sainteté, ou on est zélé pour la justice, ou on est zélé pour l'amour. Mais on est zélé pour la sainteté sans être modéré par la justice ou l'amour. Par exemple, dans Jean chapitre 8, il y avait cette femme prise en adultère, et on voit bien que les personnes plus âgées sont parties plus vite. Jésus a dit, celui qui n'a pas le péché, jette le premier la pierre. Et donc, c'est les personnes âgées qui sont parties en premier, et puis c'est les jeunes, les zélés pour la sainteté, qui sont restés juste en dernier. Ou bien zélés pour la justice. Mais sans être modéré par la sainteté ou l'amour. Donc, vous vous souvenez de l'histoire quand Salomon est décédé et son fils demande aux sages, donc des sages matures et des sages ses copains, de décider comment il doit faire. Et les sages matures ont conseillé la miséricorde. Il faut faire moins des impôts. Il faut laisser les gens vivre plus facilement. Mais les jeunes ont dit, non, la justice, ce qui était léger, lourd pour Salomon, ça va être léger pour moi. Et je vais vous vraiment écraser par les impôts. Ah ben ça, c'était le zèle des jeunes qui a cassé le royaume, n'est-ce pas? Aussi, dans les actualités, on voit certains jeunes qui font beaucoup de violence pour corriger ce qu'ils considèrent les injustices. Ils sont zélés, actifs, mais sans intelligence, sans connaître ce qu'ils font. Et puis zélés pour l'amour, sans être modérés par la sainteté ou la justice. Et on voit ça dans l'exemple de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe qui avait abîmé le principe d'amour, en acceptant, avec son grand amour, l'immoralité. Il n'avait aucun principe de la sainteté de Dieu. Donc nous voyons la nature immature des jeunes gens, comme je viens de dire dans Jean, chapitre 8. Mais on le voit aussi une autre fois dans l'histoire du fils prodigue. On a les deux fils, on a le père, donc il a fait tout son travail, il a épargné comme il pouvait, et puis le fils aîné qui est un peu plus âgé, donc il a un peu plus de sagesse. Et on a le jeune qui dit, waouh, je voudrais aller voir le monde, papa, donne-moi tout ce qui m'appartient. Et il part, il gaspille tout. Okay? On voit la jeunesse dans ce deuxième fils. Dans Ecclésias chapitre 12 et verset 16, la parole dit aux jeunes, Dieu amènera toute œuvre en jugement, soit bien, soit mal. Donc on voit qu'il y a les conséquences Dans la jeunesse, on va faire des choses et des fois, les conséquences sont très lourdes. Heureusement, Dieu peut pardonner nos péchés par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul a donné à Tite la responsabilité d'organiser ces églises naissantes sur l'île de Crète. Souvent, les missionnaires, ils partent de chez eux étant jeunes. Regarde notre ami à La Rode. Il est parti à 17 ans de chez lui pour être missionnaire en France. Il n'était pas encore âgé. Ils doivent, ces missionnaires, comme Tite, doivent être les modèles pour les nouveaux chrétiens, bien qu'ils sont encore jeunes. Paul dit, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Te montrant toi-même un modèle. Paul veut que Tite soit conscient du fait qu'il est le modèle. Il est, parmi tous ces nouveaux convertis sur l'île, c'est lui le modèle, c'est lui le plus ancien des chrétiens. Donc, ce mot veut dire le moule dans lequel on va verser peut-être la porcelaine. c'est le mot, porcelaine. Donc, on a le moule qui a tout le forme, les images et tout ça, on va verser ça et puis après on va vendre l'objet. Mais ce n'est pas le moule, c'est l'objet. Et c'est ça. Tite est le moule et il veut conformer les gens à lui et voilà le produit, c'est les chrétiens sur l'île de Crète. Il y a un autre mot qui s'utilise, qui veut dire imiter. Imite ou imiter. Imitateur. Soyez des imitateurs de moi, soyez des imitateurs de Dieu, etc. Donc, tout le Nouveau Testament est une idée de faire le disciple. Aller dans toutes les nations, faire des disciples. Faire des gens qui sont les apprentis du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Tite, il doit faire des disciples, il doit faire des chrétiens qui correspondent au chrétien qu'il est. Et c'est pour ça que Paul, lui, à la fois responsabilise, tu vas le faire, et voilà, j'ai confiance en toi, mais aussi, il demande qu'il fasse attention pour qu'il soit vraiment un bon modèle. Okay? Donc, Paul engage à la fois la participation et la responsabilité de Tite. Comme nous aussi, on voudrait engager la participation et la responsabilité des uns et des autres. C'est pour ça qu'on a une église qui est une église de congrégation. Ce n'est pas une hiérarchie. Ce n'est pas le missionnaire et puis tout le monde fait comme il veut. C'est une congrégation qui vote et qui décide les choses ensemble. Dans Luc 2, nous trouvons Jésus. Il n'a que 12 ans. Et il est dans le temple en train de poser des questions au grand maître du judaïsme. Quand ses parents vont le trouver après avoir cherché quelques jours, eh bien, il va dire qu'il s'occupait des affaires de son père. En parlant de son père céleste. Nos jeunes, en tant que jeunes, doivent apprendre, selon leur capacité, à participer dans la religion. Sinon, ils vont devenir des adultes sans participation, sans intérêt dans la communauté chrétienne. Ils n'auront aucune habitude sauf de s'asseoir. Ils ne vont pas participer. L'une des images que le Seigneur utilise pour décrire le christianisme biblique est celle du corps humain. chacun participe selon sa fonction dans le corps, depuis les petites cellules jusqu'aux grands organes intérieurs et extérieurs. Si le cœur ne pompe pas, hein, si les reins ne fonctionnent plus, si l'œil ne voit rien, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une église handicapée. Le fait de faire partie du corps impose la responsabilité de fonctionner. On a mis le cœur là-dedans pour pomper le sang partout. Et quand ça s'arrête, c'est fini. Chacun doit s'acquitter de sa fonction de bonne volonté. Ah. Il faut le faire. Non, il faut qu'on fasse ça parce qu'on veut participer. Chacun est responsable dans son propre domaine. Donc Paul dit à Tite, te montre en toi-même un modèle de bonnes œuvres, donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable. Donc on voit ici la division de base, œuvre et enseignement. C'est toujours ça, œuvre et enseignement. Œuvre, c'est-à-dire les actions, c'est ce que nous faisons. Et l'enseignement, c'est les paroles, c'est ce que nous disons. Il dit de bonnes œuvres. Alors, cela veut dire les belles œuvres ou les œuvres vertueuses, les œuvres de valeur morale. Nos œuvres en tant que chrétiens ont d'office une valeur morale. Nos actions, comme nous avons vu un peu plus avant, doivent être selon le caractère de Dieu, saint, juste, amour. Nous ne parlons pas ici des bonnes œuvres dans le sens catholique, les bonnes œuvres, ok? Mais nous parlons des œuvres vertueuses, des belles œuvres, des œuvres bienfaisantes, etc. Un modèle de bonnes œuvres donnant un enseignement pur, digne. Un enseignement digne, c'est le mot digne veut dire sérieux, digne, honorable. Une parole saine, c'est saine ou une parole de bonne santé. Donc là, on parle vraiment de conforme à la parole de Dieu. Une parole irréprochable. Dans le sens que on n'a pas raison de critiquer ce que la personne a dit. C'est-à-dire on peut toujours critiquer, mais ce n'est pas toujours juste de critiquer. D'accord? Donc on voit ça souvent aussi dans les informations. Donc une parole irréprochable. Pourquoi? Afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. C'est-à-dire, l'adversaire, il est hostile, il n'est pas un ami, il est contre, il est en opposition. Peut-être que c'est cette femme-là qui s'est convertie, et donc son mari est en opposition. Ou c'est peut-être cet homme qui s'est converti et sa femme est en opposition. Ou peut-être c'est ces esclaves-là qui se sont convertis et le maître n'est pas content. Il est en opposition, il est l'adversaire. On ne parle pas ici du diable, on parle des hommes qui sont contre l'Évangile. Eh bien, nous ne sommes pas surpris de voir qu'il y a les ennemis, l'opposition, n'est-ce pas? Jésus avait des ennemis, beaucoup. Et à la fin, ils l'ont tué. Le diable, il est là aussi, il est notre ennemi. Le christianisme était souvent persécuté. Au début, le christianisme était persécuté par les juifs. Après, c'était persécuté par les romains. Et par la suite, c'était persécuté par les catholiques romains. Et par la suite, par les protestants. Aujourd'hui, c'est d'autres groupes qui persécutent les chrétiens. Souvent, les chrétiens étaient persécutés. Il y a toujours de l'opposition. Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, vous pouvez regarder si vous voulez, Matthieu chapitre 10, versets 16 à 18. Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au tribunal et ils vous battront de verre dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Jeunes et moins jeunes, il est important que nous soyons, comme Jésus a dit, prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ça veut dire vigilant, attentif, mais en même temps non offensif, non agressif. Paul dit aussi dans Colossiens chapitre 4 et verset 6, Colossiens chapitre 4 et verset 6, Colossiens chapitre 4 verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Juste à présent, dans ce message, nous parlons des personnes âgées ou plus âgées, les femmes plus âgées, les femmes moins âgées, la jeunesse. Maintenant, Paul adresse une classe particulière de la société. Il s'adresse aux esclaves parmi les convertis. Donc, je fais un petit à côté concernant l'esclavage. Dans l'Antiquité et à travers l'histoire, dans la quasi-totalité du monde, il y avait beaucoup d'esclaves. Des êtres humains qui ont perdu leur liberté individuelle. Abraham et Jacob avaient des esclaves. Les ethnies africaines, n'ayant pas de prison, vendaient comme esclaves le prisonnier. Les frères de Joseph l'ont vendu en esclavage. Les gens qui ne pouvaient pas payer leurs dettes étaient souvent vendus en esclavage. Beaucoup d'Anglais allant au Nouveau Monde payaient leur passage en se vendant pour 7 années de services et de produits. Un de mes professeurs à l'université disait: les esclaves étaient les machines de l'Antiquité. On estime que entre 35 et 40% de la population de l'Empire romain était esclave. Un tiers d'esclaves romains arrivaient à s'affranchir. Ça veut dire ils arrivaient à obtenir leur liberté. Alors, dans notre monde occidental, l'esclavage est illégal. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. J'ai dit que c'est illégal. Et dans d'autres pays, il y a toujours de l'esclavage, d'autres parties du monde. Alors, ici, dans l'Occident, nous avons développé une société d'entreprise et d'employé. Je vais le dire comme ça pour être simple. Entreprise et employé, patron et employé. L'épître de Jacques parle des problèmes concernant les patrons. Ici, pour ces églises naissantes, il faut comprendre bien que Paul adresse un groupe de personnes spéciales. C'est une île avec plein de nouveaux convertis. Il doit démarrer le christianisme. Okay? Donc, il s'adresse seulement le sujet de l'esclavage. Il ne va pas résoudre tous les problèmes de la société. Okay? Pour nous, parce que nous n'avons pas parmi nous des esclaves. Okay? Donc nous, on va parler des employés. D'accord? les salariés. Donc, verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Donc, premièrement, il faut comprendre que le mot exhorte n'est pas dans le grec. Donc, ils ont repris du verset 9, du verset 6, le mot exhorte. Parce qu'en fait, ici, il n'y a pas de verbe. Okay? Donc, c'est à prendre plus comme une commande. Parce qu'on n'encourage pas un esclave d'obéir, n'est-ce pas? On le commande. OK? Donc, c'est une erreur dans la traduction de seconde. Dans les autres traductions, il dit que les esclaves obéissent. Oui, c'est une commande. OK? Que les serviteurs soient soumis. Que les ouvriers travaillent. Voilà ce que ça veut dire pour nous. Quand vous allez au travail, que vous travaillez. Oh, c'est surprenant. Pourquoi? Ah ben parce que vous êtes payé. C'est pour ça qu'il faut travailler. C'était quoi la usine manufacture de pneus ici en France? Quoi, c'était Goodrich. Donc c'était un pneu fabrique américain et les ouvriers avec le syndicat ont fait en sorte que de plus en plus le patron de l'entreprise devait céder. Et puis à la fin, ils ont dit, écoute, on ne veut plus vous payer 3 jours de travail. On vous paye pour une semaine et vous ne travaillez que 3 jours. Et ils ont fermé l'usine. C'était la fin de cette question. OK? Parce qu'on paye une personne pour travailler. Et c'est ça qu'il veut dire ici. Vous êtes esclave, vous êtes sous l'autorité de votre maître, eh bien, vous devez acquitter vos responsabilités. Et pour nous, dans nos jours, ça veut dire, au travail, on travaille. On n'est pas esclave. Il ne faut jamais penser, ah, mais je suis coincé dans ce travail, je dois faire tout ce que je ne veux pas faire. Non, vous pouvez changer de travail. Si vous êtes esclave, vous serez coincé. Je veux changer de patron. Non, vous ne pouvez pas. Mais aujourd'hui, on peut. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est facile, je n'ai pas dit ça. Mais on a le droit et la liberté d'agir que les esclaves n'avaient pas. À leur propre maître, à être soumis à leur propre maître. Donc, ici encore, on ne traduit pas le grec. Je n'ai pas compris pourquoi on insiste de ne pas traduire les mots qui sont dans le grec. C'est le mot idios, c'est le mot son propre maître. Ça veut dire qu'il y a d'autres maîtres. C'est comme la femme doit être soumise à son propre mari, mais pas les autres maris. Et j'ai vu dans certaines églises américaines où le pasteur voudrait dire à la femme, elle doit porter ses vêtements et faire ceci et faire cela. Eh bien non, le pasteur n'est pas son mari. Elle est avec son mari et c'est elle et lui qui décident les choses et pas le pasteur. Et c'est la même chose ici, c'est pas le maître là-bas qui lui dit vous faites ceci, vous faites cela. Non, c'est son propre maître à être soumis. Quand il n'est plus, s'il se soumet à un autre maître, il est en rébellion contre son propre maître. On ne peut pas servir les deux maîtres. C'est Jésus qui l'a dit. Ok? Vous devez, vous, en tant qu'ouvrier, en tant que salarié, vous devez le temps et le travail pour lequel vous êtes payé. Ce serait une trahison de se faire payer par un patron, mais de passer votre temps à travailler pour un tierce patron. Ça ne va pas. Je le dis un peu comme ça. Je me souviens quand j'ai travaillé à l'université et dans le séminaire, ben j'ai travaillé, j'étais là, j'étais dans la caisse. Et quand une voiture arrivait, je prenais l'argent. Mais quand la voiture ne passait pas,
Le patron était au courant.
Je faisais mes études.
Parce que moi, on fait rien du tout.
Mais je ne faisais pas le travail pour notre patron. OK?
À leur plaire en toutes choses. Là, on parle du bon travail. Vous êtes au travail. Vous êtes chrétien. Vous devez faire un bon travail. Vous devez faire un travail de bonne qualité. À n'être point contredisant. Et là, on parle de l'attitude. En tant que chrétien, au travail, nous devons avoir une bonne attitude. Si vous ne pouvez plus avoir une bonne attitude, c'est le moment de partir. Vous allez trouver un autre travail. Hein, parce que ce n'est pas correct que vous donnez une mauvaise attitude, une mauvaise réputation au Seigneur. À ne rien dérober. Ça, c'est plus difficile. Hein. Le chrétien ne doit pas voler. Et combien de chrétiens volent au travail? Ah, mais ce n'est pas des millions! C'est que des petits stylos, et des petits papiers, des petits trombones, et peut-être une petite veine ici ou là. Attention à nous. OK? Voler, c'est malhonnête. Le patron vous paye. Ne prenez pas les affaires du patron chez vous sans son accord. S'il est d'accord, ce n'est pas un problème. Il vous donne cette possibilité d'accord. Mais il ne faut pas le faire derrière son dos. Regarde, patron, il y a des restes là. Est-ce que vous allez les jeter? Je peux les utiliser à la maison. Oui, d'accord. Ah ben non, je vais les utiliser pour un autre projet. Ah, c'est lui, c'est son argent, c'est son matériel. Il faut attendre son accord. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Bon, il parle aux esclaves, mais nous, on parle aux salariés. OK? On parle ici de la responsabilité. Votre patron peut compter sur vous. OK? Une parfaite fidélité. Les chrétiens devraient être les meilleurs ouvriers, les meilleurs salariés dans l'entreprise. Un chrétien qui travaille bien, qui est fidèle, arrive à ouvrir la porte pour l'emploi d'autres chrétiens. C'est spécial, ça. Ah oui, c'est un bon ouvrier, bon salarié. Eh bien, tu suggères un tel, d'accord, on va le prendre. Et si ce nouveau chrétien travaille bien, on va prendre un autre, et on va prendre un autre. Et hop, si on tombe sur le mauvais chrétien, c'est fini. Parce que la mauvaise réputation d'un chrétien va effacer tout le souvenir de la réputation des bons chrétiens. OK? Attention. Et il dit, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Honorer la doctrine, c'est-à-dire d'honorer notre Dieu et notre Sauveur à travers le travail. C'est ça le sujet-là. Okay? Ceci est le témoignage de vie. Par ce témoignage, par cette réputation, d'autres personnes vont vouloir connaître votre Dieu, votre Sauveur. On part en guise, on va dire en guise de résumé. Donc, tous les chrétiens ont le devoir de ressembler à Jésus-Christ et d'office à représenter Jésus-Christ. Donc, dans l'étude jusqu'ici, dans ce livre de Tite, nous avons abordé le sujet de l'organisation de la communauté chrétienne pour avoir un bon départ, pour donner un bon départ pour les petites églises, les plusieurs petites églises sur l'île. Il vient de naître. Et nous avons parlé de la place de la vie des hommes, des femmes et tout à l'heure des jeunes. Nous avons parlé du chrétien dans son travail. Donc le texte biblique parle des esclaves. Et nous, on sait bien qu'on n'est pas esclaves au travail. Mais on est au travail, OK? On ne parle pas du patron. Le patron peut faire comme il veut, OK? Mais on parle des salariés. Bon.
peut-être il y a plus de mots à utiliser que salarié, soldat. Je ne suis pas à la place. Question de français, ça va. Bien qu'on a couvert tous ces sujets, on n'a pas tout dit. Pourquoi? Parce que Paul vise l'implantation de ces petites églises ici dans l'île. C'est des petites églises naissantes. Ce n'est pas obligé de tout dire. Avec le temps, les chrétiens vont connaître plus, ils vont grandir, ils vont avoir une meilleure compréhension du christianisme. Le Nouveau Testament même va donner beaucoup plus d'instructions sur les divers sujets. Mais ici, on veut bien orienter ces églises naissantes. Dans la suite du livre de Tite, nous allons apprendre la place du chrétien dans la société. Et aussi la nécessité de la stabilité dans les églises. Donc, en se souvenant de cette île et son arrière-plan païen, eh bien, on commence à voir que ces instructions pour l'église naissante, ce qu'on commence à voir, c'est que les croyants, ayant quitté leur ancienne vie païenne, les croyants se sont embarqués sur une route nouvelle. La vie nouvelle en Jésus-Christ. Ce n'est pas le tout dit de cela. Mais c'est montré que avant j'étais dans ce sens-là. Et en me convertissant à Jésus, maintenant je suis dans cette voie-là. Il y a une différence entre l'ancienne vie et la nouvelle vie.